pour 100 millions de dollars après les inondations qui ont fait au moins 246 morts et déplacé des milliers de personnes dans un pays qui a subi des pluies torrentielles alors qu'il émerge à peine d'une terrible sécheresse.
VOA Afrique en direct de Washington.
Ici aux États-Unis, deux nouveaux membres de l'équipe gouvernementale de Donald Trump sont maintenant en poste. Le Sénat a donné son feu vert à l'ancien gouverneur du Texas, Rick Perry, pour diriger le département de l'énergie. Tandis que le neurochirurgien de renommée internationale, Ben Carson, a été confirmé au ministère du Logement et du Développement Urbain. Chérubin Gaby Dorsil pour les détails.
Being in this room today and seeing this group of
L'ancien gouverneur Rick Perry est maintenant responsable d'un ministère qu'il souhaitait éliminer quand il était candidat, ce qui n'a empêché que 62 sénateurs, donc démocrates et républicains, votent en sa faveur. À 65 ans, Ben Carson devient le seul noir du cabinet de Donald Trump. Le vote le confirma au poste de ministre du Logement était hier soir de 58 contre 41. Durant toute ma vie professionnelle, l'essentiel pour moi a toujours été d'accorder aux gens une nouvelle chance de mener une vie de qualité, a déclaré le docteur Carson après son investiture par le vice-président Mike Pence. Le président Trump et moi, a dit Mike Pence, avons la certitude que votre compassion, votre souci d'aider les autres, votre conviction vous seront utiles dans ce nouveau rôle. La confirmation de Ben Carson et Rick Perry intervient au moment où leur collègue de la justice, Jeff Sessions, est sur la corde raide suite aux révélations concernant ses contacts avec l'ambassadeur russe à Washington durant la campagne électorale. Les démocrates continuent de réclamer sa démission.
Voilà, c'était Morgane Guiriec au micro pour ce bulletin d'information.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
A dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver comme toutes les semaines dans l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis au micro de présentation John Linden. La production de cette émission est assurée par Lionel Gaïma, mise en nom de Suleiman Tarawale. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VOA Afrique, vous écoutez donc l'Amérique et vous. De nombreux restaurants ont baissé leurs rideaux jeudi à Washington DC lors de ce qu'ils ont appelé « journée sans immigrés ». Initiative rare en réaction à la politique anti-immigration du président Donald Trump. Des dizaines d'autres restaurants étaient également fermés ailleurs aux États-Unis, notamment à New York, Philadelphie ou Chicago, où environ 50 enseignes ont pris part au mouvement. Quelques 11 millions de clandestins vivent aux États-Unis, selon l'Institut Pew Research Center. Les sans-papiers représentaient en 2014 9% des employés du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. À leur question, que pensez-vous de l'apport des immigrés dans l'économie américaine? Laissez-nous vos commentaires ou appelez en direct au 202-619-3140. Et pour nous accompagner dans cette émission ce soir, nous avons Stanislas Tina Ondobo, un immigrant depuis Baltimore. Stanislas est avec nous?
Oui, je suis avec vous. Vous me suivez là?
Oui, bonsoir.
Merci.
Merci d'être avec nous. On a également Salumba Sherif, qui est président de l'Association des Guinéens de DC, Maryland et Virginie. Salumba Sherif, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Merci pour votre fidélité. Et dans ce studio, nous aurons Georges Léonard Sagno, qui nous donnera également son point de vue sur cette émission. On va commencer tout de suite avec Salumba Sherif. Vous êtes au courant qu'il y a eu, au niveau de Washington et dans plusieurs villes américaines, une journée sans immigrés. Votre commentaire sur cette actualité.
Merci à la radio La Voix de l'Amérique et bonsoir à vos auditeurs et aux auditeurs qui sont un peu partout. Comme vous le savez, à l'heure là, le sujet qui est sur les lèvres de tous les immigrants, c'est ce sujet d'immigration. Et hier, on a vu sur toute l'étendue du territoire national où il y a eu une journée sans immigrants, c'est-à-dire pour montrer à l'administration le poids que les immigrants ont ici, mais plus précisément le poids économique. Nous savons que les immigrants constituent une base très forte de l'économie américaine parce qu'on n'est pas sans savoir que selon les études qui ont été faites en 2014 par un groupe de républicains et de démocrates, cette étude montrait que les immigrants gagnaient quelque chose de 1,3 trillion ici et contribuaient à hauteur de 105 millions dans les États américains, c'est-à-dire en payant les taxes au niveau des États, au niveau des villes. Donc cela, c'est un poids. Hier déjà, quand tu vois que tes restaurants sont fermés, les entreprises, les immigrants sont fermés, partout où il y a une forte communauté immigrante, la population dit non, n'allons pas acheter aujourd'hui, restons à la maison pour qu'on puisse prouver à l'administration le poids que nous représentons. Je pense que c'est un signal qui est très important, qui est à considérer parce que le tout tourne autour de l'économie.
On en discutera tout au long de cette émission. On va accueillir Adama Faye, un immigrant depuis New York. Bonsoir.
Hey, bonsoir.
Voilà, votre commentaire sur la journée sans immigrés qui a eu lieu hier.
Ah, moi, je crois qu'on ne va pas pouvoir avoir un résultat, sinon l'impact que ça a fait sur l'économie. Mais je crois que c'est déjà un début. C'est déjà un début parce qu'il y a beaucoup de business hier qui l'ont ressenti, qui l'ont dit. J'ai écouté une émission tout à l'heure, un talk show ici à New York, là, les gens disaient qu'ils étaient partis dans leur restaurant préféré, ils étaient déjà close, fermés. Alors, il y en a d'autres qui ont ouvert, mais il y a le patron qui faisait la plonge parce qu'il n'y avait personne. Donc, mais je crois que les immigrés ont un impact très fort dans l'économie américaine. Il y aura peut-être ce qu'on appelle les idiots utiles qui font justement du bruit, qui ne savent pas exactement comment ça marche. Mais les petites et moyennes entreprises aux États-Unis, ils savent bien que les immigrés font beaucoup de choses pour l'économie américaine. Les restaurants ne pourront jamais marcher ici. Sinon, en Californie et dans les autres États où il y a beaucoup d'agriculture, il n'y a personne pour faire la récolte des légumes et des fruits. Donc, ils ont un impact très fort aux États-Unis. Peut-être dans quelques jours, on pourra voir ce que ça a réellement fait hier. Parce qu'on n'a pas acheté et on n'est pas allé au travail. Donc, je crois que ça a un impact. Mais nous le saurons dans quelques jours.
Voilà, merci Adama Faye. Vous restez avec nous. Stanislas Tina, vous avez suivi également cette actualité, votre commentaire.
Je remercie la Voix de l'Amérique pour cette initiative qu'ils prennent de pouvoir informer les gens. Je suis d'autant plus béni, encouragé par ces efforts parce que les auditeurs nous suivent à travers le monde et à travers toute l'Amérique. Vous êtes avec de très bonnes personnes qui peuvent effectivement vous donner le rapport sur tout, sur l'impact que ce problème apporte dans l'économie américaine. D'entrée de jeu, il n'y a pas d'Amérique sans immigration. Il n'y aura jamais d'Amérique s'il n'y a pas d'immigration. Ça, c'est d'abord ce que nous avons à retenir. Et de deux, l'économie américaine a eu un frein. S'il faudrait évaluer ou remettre en relief tout ce qui n'a pas pu se passer depuis hier matin jusqu'à hier soir, je pense que l'Amérique aurait perdu au moins, je dis bien au moins, 10% de son économie aurait perdu quelque chose de très important. C'est pourquoi je pense qu'il faut très bien que les gens comprennent à quoi ça sert cette immigration. Qui est derrière l'immigration? Quelle est l'importance de l'immigration dans cette société américaine? Et quel impact cela va apporter si jamais ils continuent à jouer à ce jeu plus ou moins ridicule?
On va avoir l'avis de Georges Léonard Sagnot sur cette journée sans immigrés aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez?
Merci John. Je me dis que ça ne fait que commencer parce que le 8 mars prochain, il y aura aussi une journée sans femmes. Les femmes ont décidé de marcher le 8 mars. Vous savez, c'est la journée internationale de la femme.
Tout à
fait. Et ce jour-là, il y aura une journée sans femmes. Alors, imaginez, tout ça, c'est pour mettre pression sur le gouvernement fédéral américain, sur les décrets du président Trump. En somme, ce pays, d'abord, c'est un pays d'immigrants. En 1492, le 12 octobre, Christophe Colomb découvrit l'Amérique. Il n'y avait rien ici, c'était un nouveau monde, comme on l'a dit. C'était une nouvelle terre. Et donc, ce pays ne peut pas rouler, ou l'économie de ce pays ne peut pas tourner sans l'apport des immigrants. Aujourd'hui, on nous parle de 11 millions d'immigrants illégaux. Est-ce que nous savons combien d'immigrants sont légaux dans ce pays? Est-ce qu'on peut faire un peu ce calcul-là pour savoir combien d'immigrants légaux exercent aux États-Unis? Dans ce cas, on saura qui est américain et qui ne l'est pas. Et donc, je crois qu'il faut juste mettre les pendules à l'heure. Il est normal que quand les immigrants arrivent, qu'ils essayent aussi de se mettre à jour par rapport aux lois et par rapport aux réglementations. Donc, prenez les universités, les centres de recherche comme NIH dans le Maryland, ici à Bethesda, ou bien le CDC à Atlanta, en Géorgie. Vous savez, ces centres de recherche ne peuvent pas tourner sans les immigrants. Quand je prends l'université Johns Hopkins, non loin de Washington, à Baltimore, c'est plein d'Africains et d'immigrants venus de partout qui font des recherches.
Je vais poser la question à Salumba Shérif, puisqu'on parle des illégaux. Il me semble que la semaine qui vient de s'écouler, vous avez réuni la communauté guinéenne ici pour justement sensibiliser ceux qui sont en situation irrégulière sur ce qu'ils devaient faire, étant donné que Trump est en train de mettre ICE aux trousses des uns et des autres.
Oui, c'est bien vrai. Le 12 février, nous avons organisé un colloque sur l'immigration où nous avons invité des experts en la matière, des avocats qui sont venus en un mot éduquer notre communauté sur leurs droits et devoirs en tant qu'immigrants sur le sol américain. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'information, c'est la clé. Et beaucoup de nos compatriotes n'ont pas l'information dont ils ont besoin pour pouvoir mener leur vie régulière. Donc, raison pour laquelle ce week-end passé, nous avons engagé un groupe d'avocats qui est déjà là prêt pour assister tous les membres de notre communauté. Ils sont venus nous éduquer sur les droits et devoirs, mais aussi on les a engagés en tant qu'avocats de notre communauté. Ils sont à l'alerte pour s'assurer que les membres de notre communauté sont protégés et sont défendus ici aux États-Unis s'ils ont des problèmes. Parce qu'il y a une peur qui s'est installée dans toutes les communautés aujourd'hui. Même ceux qui sont en situation régulière ont peur. Ils ne savent pas ce qu'il faut. C'est la raison pour laquelle on a dit, écoutez, il y a l'information qui leur manque. Donc le colloque a été un succès et aujourd'hui nous dirons que Dieu merci, l'information est en train de passer au niveau de la communauté et j'espère que les autres communautés aussi feront la même chose.
Adama Faye, au niveau de New York, qui est une ville multiculturelle et qui est la ville de Donald Trump, comment est-ce que les communautés se sentent?
Les gens se sentent pas très confortable. Ils ont peur, comme le gars qui vient de sortir l'a dit. Dans toutes les communautés, il n'y a rien qui est garanti ici maintenant. On ne sait même pas, parce qu'il y a de nouvelles personnes qui sont maintenant dans le Sénat et dans le Congrès. C'est des gens qui cherchent à limiter, comme j'ai en discuté avec vous la semaine dernière, des gens qui veulent limiter l'immigration. Il y en a même qui disent que même ceux qui ont justement le work permit ou le green card, comment est-ce qu'il faut faire pour, s'ils ne sont pas très utiles aux États-Unis, de les renvoyer chez eux. Donc il y a un sentiment de malaise partout, chez tous les immigrés. Je crois que nous sommes une force ici et que nous devons nous organiser de faire de sorte que, de faire valoir nos droits, parce que nous sommes là depuis longtemps, nous avons des enfants ici, nous avons acheté des maisons ici, donc nous sommes une part des États-Unis. Nous contribuons ici, nous payons des taxes et tout. Il n'y a pas des gens qui disent que oh, nous sommes nés ici et que voilà, un jour ils nous disent que voilà, on ne veut plus de vous. Il faut que des choses comme ce qui s'est passé hier, qu'on fasse des choses de ce genre-là un jour, et que les gens aussi se sentent concernés, même ceux qui ont des papiers, qu'ils retournent l'ascenseur en restant chez eux, à ne pas aller acheter des choses, justement pour aider leurs frères et sœurs qui sont là et qui sont dans l'illégalité. Il faut justement que les gens soient beaucoup plus engagés et voilà, se battre, parce que c'est tout un système qui est contre nous, donc nous aussi, nous devons nous organiser à nous battre, mais dans la légalité, sinon dans la passivité.
Tant pour moi, on va prendre un auditeur au téléphone, Charité Jim Rabé. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de N'Djamena au Tchad, il me semble.
Oui, oui.
Votre réaction au sujet de ce soir dans l'Amérique et vous?
Ce que je peux dire, voilà, la politique d'immigration aujourd'hui aux États-Unis, ce n'est pas la première fois. Ce qui fait problème aujourd'hui, c'est la forme de ce décret que Donald Trump a pris. Mais si on prend dans le fond, cette politique a été appliquée bien longtemps. On n'a pas oublié aussi que Barack Obama, quand il était président, avait aussi expulsé des immigrés. Donc aujourd'hui, c'est un problème de forme. Et moi, je pense qu'il faudrait mieux laisser la latitude aux diplomates, c'est-à-dire aux représentations de chaque pays aux États-Unis, d'essayer de régler ce problème, c'est-à-dire résoudre ce problème de manière diplomatique, mais envoyer des gens ou bien se léser et faire des manifestations comme ce qui s'est passé hier et jusqu'à aujourd'hui. Moi, je pense qu'on est en train d'aller à contre-courant et on force l'agenda de Donald Trump. On est en train de forcer l'agenda de cette administration. Il faudrait mieux laisser cette administration. Je pense que les choses iraient beaucoup mieux.
Vous restez en ligne, Charité. Je vais poser, on parle de l'immigration des clandestins, de l'immigration illégale. Il y a également une immigration légale ici. Et on a la chance d'avoir Stanislas Tina Ondobo. Vous êtes venu aux États-Unis, il me semble, grâce à la loterie américaine.
Oui, bien sûr, je suis arrivé dans ce pays d'une manière légale.
Tout à fait. Alors, il y a deux sénateurs républicains qui ont introduit un projet de loi au Congrès qui pourrait, si ce projet est adopté, supprimer la loterie américaine. Déjà, votre réaction à ce projet, et puis vous nous direz un peu comment vous êtes arrivé ici et comment ça se passe pour vous.
Sur les lois qui sont en train d'être mises en route pour arrêter ce problème de loterie américaine, pour moi, je dis que c'est un faux sujet. Ça ne peut pas avoir lieu, ça n'aura jamais lieu. Il ne faut pas que les gens aient peur, parce que la peur est déjà une faiblesse naturelle dont tout le monde peut ressentir. Mais tout ce que nous devons savoir, c'est que nous avons des droits et des devoirs. Nos droits, c'est quoi? Nous respectons les droits que la Constitution américaine nous donne, et cette même Constitution nous protège. Vous voyez? Donc, lorsque la loterie américaine a été créée, ce n'est pas les immigrés qui l'ont créé. Ce sont ces Américains qui l'ont créé. Encore faudrait-il savoir. Monsieur Trump, je voudrais bien respecter le président, Monsieur Trump, c'est un fils immigré. Dites-moi, vous, comment est-ce qu'on va se mettre à revenir en arrière? Je dis, on ne va pas rentrer à l'époque néandertale parce que deux personnes ne sont pas contentes de voir la tête de X ou de Y. Je pense que c'est une loi qui ne pourra pas passer. Et même s'il vient à passer, c'est pour quelques deux jours. Quand je dis deux jours, c'est pour juste le mandat s'il pourra finir. Ensuite, parlant de moi, je ne suis pas venu ici parce que j'ai vraiment gagné la loterie, en fait. J'avais une idée, je pensais que l'Amérique était un endroit qu'il fallait visiter. Dès mon très bas âge, j'enseignais les arts martiaux au lycée classique de Berthois. Et depuis ce temps, j'ai commencé à étudier la géographie nord-américaine. Et au bout d'un certain temps, les opportunités me sont ouvertes. Et c'est comme ça que je joue à la loterie. Comme ça, j'avais mon travail au Cameroun. J'étais sous-directeur dans une entreprise Local Corporation, Car Transportation Corporation au Cameroun. J'avais un très bon salaire, je n'avais besoin de rien. Mais c'est une décision de dire, écoute, je vais essayer d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Ça veut dire que le Cameroun ne m'a jamais rejeté, personne ne m'a jamais chassé. Donc je suis venu ici de moi-même parce que j'ai posé j'ai présenté les documents qu'ils m'avaient demandé. Et c'est comme ça que j'arrive aux États-Unis avec ma famille, déjà seul dans un premier temps, parce que je ne pouvais pas me déplacer avec toute la famille. Comme tout le monde, on arrive ici quelques mois après. Pour ceux qui connaissent la loterie américaine, c'est un mois après, on te donne tes documents. Et au bout de 5 ans, tu vas prêter serment comme citoyen américain. Donc, au bout de 5 ans, je deviens citoyen. Après être citoyen, avant que je ne sois citoyen, j'ai commencé à enseigner. J'enseigne aux Latinos, aux Noirs américains, aux Américains blancs même, aux Chinois, aux Européens de l'Est. Je leur enseigne ce que j'ai appris à l'école. Je fais partie de cette communauté qui fait avancer cette Amérique. Donc, alors, sur pratiquement 5 ans, j'ai formé pratiquement plus de 1500 personnes qui opèrent sur ce territoire américain, qui payent des taxes dans ce pays, qui poussent ce pays à se développer. Donc, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qu'on va supprimer, parce que s'il faut supprimer cela, je vous garantis que ce pays va tomber. Ce pays va tomber, il ne peut pas avancer. Je connais les États comme nous connaissons la carte de Longkak à Yaoundé. Je connais qui travaille où, parce que je suis passé là avec chacun de mes élèves. Je connais qui travaille ici, qui travaille là.
il n'y a pas que la restauration, il n'y a pas que, je ne sais pas moi, le transport, il n'y a pas des, il n'y a pas que des hôtels, il y a, c'est tout un ensemble, c'est un tout. Donc s'il faudrait extirper ou enlever cette partie de la population, qui va le faire? Il n'y a personne, il n'y a rien à faire. Je dis, c'est juste un rêve.
Désolé de vous couper, je souligne que vous êtes instructeur de remorques et de camions, donc qui participe effectivement à l'économie américaine. On va prendre une petite pause et on va revenir avec nos invités.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Aujourd'hui, nous parlons de l'apport des immigrés dans l'économie américaine. Et Georges, vous dites qu'il faut savoir faire la part des choses.
Oui, il faudrait dire que le président américain ou le décret ne vise pas tous les immigrants. On parle d'immigrants illégaux. Les gens qui n'ont pas obtenu les papiers, qui sont pas en règle, c'est ceux-là qui sont inquiétés. Ceux qui sont venus d'Afrique, comme mon frère Stanislas, et qui sont dans les règles, je pense qu'ils ne devraient pas s'inquiéter. Donc il faut à ce niveau-là que les choses soient claires. Et je voudrais aussi dire que chaque président vient avec son agenda. Quand nous prenons le président George W. Bush, quand il est venu un républicain, il a dit, écoutez, ceux qui ont fait plus de 20 ans dans ce pays devraient quand même obtenir des papiers. Donc il a eu ce que dans le temps, il a appelé l'amnistie. Donc beaucoup de personnes avaient appliqué. Et ils étaient donc devenus des citoyens américains où ils ont quand même essayé de régulariser leur situation. Donc, c'est la tempête qui s'ouvre actuellement. Il ne faudrait pas que la panique déborde. Nos frères et sœurs devraient juste se mettre à jour et attendre. La loterie, si on la supprime aujourd'hui, cela ne va pas freiner l'immigration vers les États-Unis. Quand vous prenez l'industrie du cinéma ici, Hollywood, le grand acteur qui a été gouverneur du plus grand État, Arnold Schwarzenegger, c'est un immigrant ou fils d'un immigrant. Il y a plein de gens ici. Quand vous prenez les grands sénateurs qui sont là aujourd'hui, Ted Cruz, Marc Rubio et autres, ils sont fils d'immigrants. Donc ce pays a été façonné, même la première dame. La première dame actuellement, elle n'est pas américaine de chouche. Elle est venue. Donc il faut juste faire la part des choses et dire à nos frères que oui, panique à bord, je suis d'accord, mais il ne faut pas aussi perdre l'équilibre.
Alors, mais la question que beaucoup se posent souvent, et Adama Faye, je évoquais le sujet tout à l'heure, c'est que les Américains de souche, on va dire, ou les Américains ne font pas tout genre de travaux et la plupart des travaux sont faits par les immigrants. Adama Faye, un mot à ce sujet?
Comme lui, il vient de le dire, là, que la première dame n'est pas américaine. Mais écoutez, Donald Trump lui-même, le président des États-Unis, sa mère n'est pas américaine. Donc Donald Trump est first generation du côté de sa mère. Mais la peur que vous avez dit tout à l'heure, qu'il faut avoir raison, garder tout. Si quelqu'un a des papiers, qui est à l'aise, comme on dit, on l'attraque, ce n'est pas justement les gens qui ont des papiers, qui ont le green card, qui ont leur nationalité et tout. Mais celui qui n'a pas ses papiers, qui vit aux États-Unis depuis 30 ans, mais on ne peut pas lui dire, hey, il ne faut pas avoir peur. Hein? Bon, là, c'est justement, on essaie de vous chasser et que vous devez avoir peur un tout petit peu. Mais où est-ce qu'elle a la ligne?
Alors, on va faire le dernier tour de table. Hein. Je vais repartir à Ndjamena, Charité Jim Rabé. Un dernier mot, est-ce qu'il y a un engouement d'Africains, de Tchadiens qui souhaitent toujours revenir aux États-Unis malgré l'arrivée de Trump? En quelques secondes.
Absolument, absolument, en respectant les règles, je crois oui. Et ce qui se passe aujourd'hui, comme Georges l'a dit, c'est beaucoup plus de peur que de mal. Dans ce décret, il y en a quand même des exceptions qui sont là, pour ceux qui respectent la loi, pour ceux qui respectent les règles, les conditions, pour entrer aux États-Unis. Et on ne peut pas, sous le nom de, je ne sais pas, de l'assistance ou de ceci, accepter tout le monde et après, dans ça, il y a aussi un autre danger qui est là, qu'on ne voit pas, qu'on est là sous le coup de l'émotion, on parle trop, mais on ne voit pas le danger réel. Donc, laissons l'administration aller au bout de sa logique, et faire asseoir son agenda, et on verra bien que tout va rentrer dans l'ordre, et de créer de la panique, de la psychose, tout le monde a peur, tout le monde parle mal de ce président, pourtant c'est une politique qui est là,
voilà.
Avant lui.
Merci, merci Charité. Saloumba Chérif, en quelques secondes, le mot de la fin pour vous.
Merci à vous encore pour m'avoir reçu sur votre plateau. Mais je voudrais dire ici, c'est tout à fait normal, je suis tout à fait d'accord avec les autres intervenants, il ne faut pas qu'on crée la panique. Mais il faudrait quand même qu'on attire l'attention sur ce qui se passe. Parce que ce qui se passe ici aujourd'hui aux États-Unis, on ne l'a jamais vu auparavant. Les gens sont en train d'être ramassés dans les rues. Il y a un Léonais que je connais en Californie qui a été... ils sont partis lui demander s'il est américain ou non. Il a dit qu'il est Léonais.
Voilà.
Il est citoyen américain, il a été ramassé. Donc c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé. Mais
merci.
Il faut qu'on éduque nos communautés et pour que tout le monde soit au même niveau d'information.
Merci.
Je vous remercie.
Adama Faye, en 10 secondes, votre mot de la fin.
La fin, c'est qu'il faut que les Africains s'organisent, les autres nationalités qui sont illégaux ici, même qui sont légaux, se mettent derrière ceux qui sont illégaux pour les défendre, justement pour faire comme des journées comme celle d'hier, pour justement faire passer le message et que
voilà.
On les respecte. Voilà.
Merci Georges. Deux secondes, le mot de la fin.
La tempête souffle, mais elle passera.
Voilà, c'est la fin de cette édition présentée par John Lyndon. Lionel Gaïma était à la mise en onde. Souleymane est à la console. Bonsoir.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.